Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons dans ce studio l'abbé Arnaud Ducheron. Bonjour, Père.
Bonjour Mathias.
Bienvenue dans ce studio, bienvenue sur notre antenne. On se souvient encore, en fait, de la retransmission de votre ordination. C'était en juillet 2013. On retransmettait
Exactement.
en direct sur la radio votre ordination. Vous êtes incardiné, comme on dit, dans le diocèse d'Auch,
Tout à fait.
Gersois. Vous avez été en mission paroissiale, on se souvient aussi de vous à Mirande, par exemple. Et vous voici aujourd'hui promis à un parcours tout autre que celui d'un curé de paroisse, puisque vous avez achevé maintenant l'école des nonces, c'est-à-dire l'école des ambassadeurs du pape. Quelle mission qui vous est promise! Ça met
Exactement.
un peu de poids sur les épaules.
Oui, même si je ne réalise pas encore exactement toute l'ampleur de la charge, donc je m'avance disponible.
Vous n'êtes pas encore ambassadeur du pape,
Non.
hein. C'est le destin normalement qui vous est promis quand on sort d'une telle école.
Promis, pas nécessairement, parce que c'est pas une fin assurée. La disponibilité qui doit être la mienne tout au long des années qui viennent, c'est d'être voilà, au service de quelqu'un qui lui est ambassadeur du pape, puisque ma nomination aujourd'hui, c'est attaché de nonciature, donc numéro 2 ou 3 ou 4 selon l'ampleur des nonciatures, donc au service du nonce pour l'aider à assurer sa mission, lui qui a reçu cette mission d'ambassadeur du pape.
Donc il y a encore quelques années, vous étiez curé de paroisse.
Exactement.
Un jour, on vous dit allô, monsieur l'abbé, est-ce que vous auriez
Ça a été un peu plus
pensé
complexe que
à...
ça.
Ça a été plus complexe que ça, ou vous avez postulé pour
Non,
entrer à cette école des nonces?
absolument pas. C'est une école à laquelle on ne postule pas. Le pape qui nous visite une fois par an se plaît à dire volentes nolentes, donc les voulant, nous ne les voulons pas. Donc c'est une école où il faut être appelé. Et dans mon cas, ayant fait plusieurs années d'études à Rome au séminaire français, ce sont mes supérieurs. Il se trouve que l'école de l'Académie ecclésiastique est juste en face du séminaire français. Et donc le directeur de l'Académie ecclésiastique avait demandé au séminaire français des noms de prêtres éventuels qui pourraient être présentés à l'Académie. Et les supérieurs du séminaire ont donné mon nom sans me consulter. Et je ne l'ai su du coup qu'à la fin, mais je l'ai su, et ça a été sans doute une grâce qui m'a permis de m'y préparer, en même temps où j'étais nommé curé de Mirande. Donc c'était difficile parce que je savais qu'il y avait cette épée de Damoclès qui allait tomber un jour, à faible échéance, je ne savais pas exactement quand, mais j'avais aussi la joie de pouvoir être curé de paroisse, qui était quand même le sens de ma vocation de prêtre. Après, voilà, quand on donne sa vie au Christ, il faut accepter d'être conduit où on n'a pas choisi. Donc ben voilà, après discernement, j'ai compris que le Seigneur m'appelait là. Et aujourd'hui, ben voilà, je m'avance de nouveau vers une nouvelle mission qui me dépasse encore et certainement toujours.
Oui, on aura l'occasion au cours de cette émission d'échanger aussi avec vous sur ce que vous vivez à Lourdes au sein du pèlerinage national, un pèlerinage qui est cher à votre cœur et aussi qui vous nourrit, vous nous le direz. Mais pour en revenir encore hein, sur ce parcours-là qui s'offre à vous, après cette école des nonces, c'est 2 ans pour vous, vous avez accompli 2 ans
Voilà,
d'études,
2 ans
passé un
d'études.
doctorat.
Oui, ça faisait partie du contrat.
Du contrat. Vous partez pour l'Indonésie.
Oui, ça a été la surprise du 1er juillet dernier, puisque le 1er juillet, c'est la date de nos nominations. Et donc, nous étions 13 dans ma promotion. Nous avons été convoqués au Vatican, reçus par le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, et qui nous a remis à chacun notre lettre de mission. Et dans la mienne, il y avait écrit que le pape me nommait attaché de nonciature en Indonésie.
À Jakarta.
À Jakarta, exactement.
Vous partez bientôt.
Et je pars le 10 septembre.
Du point de vue linguistique, il faut pratiquer un certain nombre de langues quand on est, comme vous, hein, appelé à devenir ambassadeur ou en tout cas à œuvrer dans le monde des ambassades.
Oui, ça fait sans doute partie des grâces que je demande à Lourdes. bien, l'anglais, qui est en Asie assez diffusé. Et puis pour l'Indonésie, il y a l'indonésien, qui est une langue que je ne connais absolument pas. Et que j'apprendrai sans doute une fois arrivé sur place.
Vous avez dit tout à l'heure que votre vocation, c'était d'être curé de paroisse. Du point de vue du diocèse où vous avez été ordonné, c'est quand même un déchirement de voir partir un jeune prêtre comme vous, alors que, On comptait sans doute sur votre capacité de répandre l'évangile, d'être en proximité des paroissiens, d'être ancré sur un territoire. Vous le mesurez, ça?
Ah, complètement. Moi, c'était quand j'ai dit oui, j'étais à la fois heureux de répondre à un appel du Seigneur, parce que si j'ai discerné et que j'ai eu des éléments qui me permettent de poser un oui en toute confiance et en toute liberté, ça rend heureux. Mais dans ce paradoxe de l'arrachement à mes fidèles, je n'étais curé que 2 ans, ce qui est très rapide. Et donc j'étais très meurtri, notamment un peu fort, mais j'étais affecté vis-à-vis de mes fidèles en me disant « mais je les abandonne ». On est monté dans un navire ensemble et puis tout d'un coup je les laisse partir. Et alors, il ne faut jamais qu'un prêtre s'approprie ses fidèles, hein, il les reçoit et il doit être prêt à les transmettre à son successeur. Mais 2 ans, c'était quand même assez rapide. Mais ce qui m'a beaucoup touché, ça a été leur réaction. Alors évidemment, peiné et voilà, ce que je présentais, mais aussi très heureux que le Saint-Siège appelle un prêtre du fin fond de la campagne française pour aller servir l'Église universelle, alors qu'on pourrait penser que ces missions-là allait être confié à des prêtres de diocèses plus importants, peut-être avec des villes plus grandes et plus universitaires, plutôt que savoir que Mirande ou le diocèse d'Auch existe, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, pour eux, c'était un honneur. À la fin, certains m'ont dit, mais c'est un honneur pour nous de savoir que notre curé va être appelé à cette mission-là. Et du coup, ça m'a changé, mon regard sur ce que je vivais, parce que je me suis dit, finalement, si ça crée aussi un peu de joie chez mes fidèles, tant mieux.
Vous savez combien un prêtre est façonné par les rencontres, par justement ces ministères de proximité, hein, qui l'assument. Est-ce que vous ne craignez pas à un moment ou à un autre d'être un prêtre un peu hors sol? Et comment vous faites pour peut-être tout de suite essayer de contrecarrer ça, hein?
C'est une menace inévitable. Alors je vis, mais je ne sais pas jusqu'à quand, mais c'est sûr que je vis encore sur ces 2 années à Mirande, qui ont été 2 années absolument extraordinaires. Comme curé de paroisse où le Seigneur m'a envoyé des grâces jour après jour, m'a mis sur mon chemin des fidèles assez incroyables qui étaient toujours prêts à rendre service, à se lever. Je n'avais pas fini de donner une idée qu'ils étaient prêts à l'accomplir. Alors, pas toujours, il y a toujours dans une paroisse des personnes qui ne suivent pas tout, mais c'était beau de voir l'œuvre de l'Esprit-Saint. Donc je vis encore sur ces grâces données. Et puis, je sais que dans la mission qui m'attend, il n'est pas toujours possible d'être lié à une paroisse dans le pays qui nous accueille. Mais je pense que si le Seigneur me veut quelque part, il me donnera les moyens d'y être comme prêtre aussi, à moi de savoir les voir et de les saisir, et pas de me laisser happer par quelques distractions locales, dirons-nous. Il y a ça d'une part, et d'autre part, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je compte bien, dans la mesure du possible, et j'espère que le Seigneur et la Sainte Vierge y contribueront, mais pouvoir venir à Lourdes tous les ans au National, qui est un temps rapide, ce sont que 5 jours, mais très profond pour moi. Être prêtre et accompagner une salle à Lourdes en pèlerinage, ça donne quand même tout le sens aussi d'une vocation sacerdotale.
On va revenir sur le sujet Lourdes, vous concernant. On est toujours sur ce cursus qui commence à s'accomplir pour vous après l'école des nonces. Vous allez faire paraître votre thèse d'ici la fin de l'année. Parce que, nous l'avons dit, vous avez travaillé sur une thèse, c'est-à-dire produit. Vous êtes docteur, vous avez désormais le titre de docteur. Votre thèse porte sur la part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques.
Exactement.
C'est le titre complet. Ça paraîtra aux éditions du Cerf Patrimoine d'ici la fin de l'année.
J'espère.
Il s'agit de quoi dans cette thèse? De comprendre l'influence politique dans la nomination des évêques?
Oui, en fait, déjà de comprendre comment on peut affirmer un tel titre aujourd'hui, en 2019-2020, alors que je pense que tout le monde sait, parce qu'on le dit, que la France est un pays laïque, que l'État et les églises sont séparés. Comment donc est-il possible que le gouvernement français et quelque chose à voir dans le processus de nomination des évêques? Il y a là quelque chose qui paraît inconciliable et pourtant qui est un héritage de l'histoire. Donc ma thèse se développe en 3 points. étant donné que je ne l'ai écrite qu'en 2 ans, je n'ai pas fait un pavé. Il y a une partie historique pour essayer de comprendre l'évolution du processus de nomination des évêques au sein de l'Église universelle. Donc en peu de pages, j'ai eu la prétention de résumer la nomination des évêques du choix des apôtres à aujourd'hui. Donc j'ai vraiment tracé les grands traits, parce que de toute façon, il y a des ouvrages qui ont déjà été faits sur le sujet, donc ça n'avait pas l'intérêt de m'étendre, mais pour que le lecteur puisse quand même rentrer dans cette dynamique et voir un peu les évolutions au fil des temps, et voir comment l'État petit à petit est rentré dans, enfin l'État, à l'époque c'était comment le chef d'un État, peu importe le régime, est rentré dans ce processus, comment parfois il en est sorti, et comment il est re-rentré. Et le cas de la France, du coup, alors après je brosse aussi les questions canoniques, donc les lois de l'Église, leur évolution, avec notamment le code de 1917 et le code de 1983, plus les actes du Concile Vatican II. Donc, pour situer aussi cela et voir qu'il y a dans la nomination des évêques est quelque chose quand même d'ecclésial qui relie au pape et qui permet à l'Église d'être une et universelle. Et ensuite, le troisième chapitre, c'est je détaille tous les types d'évêques présents en France, c'est-à-dire les évêques de métropole, les évêques en cordataire, les éparques orientaux, l'évêque aux armées, et les évêques de ce qui était autrefois territoire ou département d'outre-mer. Et je présente à chaque fois le processus de nomination avec les différents intervenants, le rôle de l'annonciature, et ensuite à chaque fois le rôle des différents ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur ou ministère de la Guerre pour le diocèse aux armées, et donc le rôle de chacun pour chaque figure épiscopale concernée. Et donc ça a été pour moi une vraie découverte, parce que je savais qu'il y avait un rôle, mais je ne savais pas du tout lequel, et j'ai découvert qu'il était finalement assez complexe et beau, parce que je pense que ça montre que la France a un mode très particulier de vivre la laïcité.
Ce qu'on découvre au fond, c'est que au-delà de la loi de séparation des églises et de l'État, l'État s'intéresse toujours à la question religieuse.
Complètement.
Bien au-delà de la loi.
Surtout que la part faite actuelle au gouvernement français est postérieure à la loi de séparation. Parce que la loi de séparation a été concomitante, plus ou moins, avec la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, ce qui a permis à ce moment-là, enfin, qui a mis fin à la pratique du concordat en France, et qui a permis au Saint-Siège de nommer les évêques de façon parfaitement libre en France. Et là, c'était un peu la découverte de ma thèse. Beaucoup d'auteurs, quand on lit des ouvrages sur le sujet, affirmaient que c'était le Saint-Siège qui, dans sa grande bonté, avait accordé ce privilège à la France. Et en fait, mes recherches m'ont permis de découvrir une lettre dans les archives du Vatican prouvant le contraire et montrant que c'était la France et les autorités françaises qui avaient exigé, dans le cadre de la reprise de relations diplomatiques en 1921, d'être traitées à égal des nations catholiques d'Europe, en fait, qui étaient pour la plupart des monarchies, donc qui avaient tous des privilèges assez importants à ce niveau-là. Donc la France a demandé à être rétablie au même rang. Et donc le Saint-Siège a procédé à ce qu'on appelle un aide-mémoire, qui est donc un acte un peu particulier, qui donnait faculté aux autorités françaises de pouvoir émettre des objections de politique générale, qui exclut donc une objection de politique de parti.
Donc soyez attentifs les uns et les autres à la parution de cet ouvrage, hein, La part faite au gouvernement français dans le processus actuel des nominations des évêques. Au-delà de ce titre long qui dit beaucoup, hein, de ce qui est contenu dans cet ouvrage, on comprend la relation qu'entretiennent l'Église et l'État, l'Église catholique et l'État, à travers en particulier la nomination des évêques qui sont les successeurs des apôtres.
Exactement. Hein.
Fondamentalement, c'est cela. Signé Abbé Arnaud Ducheron. Nous marquons une pause, si vous le voulez bien, Père, et puis juste après, nous continuons à parler ensemble, et nous continuons en particulier sur Lourdes, votre attachement à ce lieu. À tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir l'abbé Arnaud Ducheron, qui est un Gersois, j'aime bien le dire, parce que ceux qui nous écoutent dans le Gers, qui vous ont croisé comme curé de paroisse, notamment à Mirande, Peut-être se demande-t-il qu'est-il devenu l'abbé c'est du possible. Chéron. Eh bien, l'abbé du Chéron est maintenant a terminé l'école des nonces et est envoyé à Jakarta en Indonésie. C'est votre première expérience comme attaché de nonciature.
Oui.
Bon, et cela veut dire pour vous que c'est une plongée dans le grand bain du monde de l'ambassade du pape, puisque vous êtes finalement totalement au service de la parole du pape.
Oui, oui. Les nonces apostoliques, et du coup leurs attachés, mais sont représentants du pape, donc d'une personne, pas d'un régime politique, pas d'un gouvernement ou d'un pays.
Voilà, pas d'un État, mais voilà, du pape.
C'est le pape, comme chef de l'Église catholique. Donc voilà, nous prêtons notre voix à la sienne et nous le représentons là où il le souhaite, du mieux que nous pouvons.
Vous nous disiez, juste avant la pause, que pour vous ressourcer, il y a notamment le pèlerinage à Lourdes.
Oui.
C'est relativement récent pour vous, Père, si je puis me permettre.
Oui, oui, oui. C'est...
L'expérience du pèlerinage à Lourdes.
J'en ai presque honte, mais...
Non, dites pas ça.
Si, j'ai grandi à quelques kilomètres. Auch n'est pas très loin. Et je suis toujours venu à Lourdes, puisque nous venions tous les ans pour le pèlerinage diocésain, qui était le dernier pèlerinage de la saison, au mois d'octobre. Mais le pèlerinage diocésain étant séparé de l'hospitalité diocésaine à l'époque, c'était un pèlerinage qui ne me mettait absolument pas du tout au contact des malades, et qui ne m'avait d'ailleurs jamais conduit non plus aux piscines. Je connaissais la grotte, les églises où il y avait la messe, la procession l'après-midi, et c'était tout. Donc Lourdes c'était bien, mais je n'avais jamais eu d'expérience finalement forte à Lourdes, et il a fallu attendre mon ordination, donc en 2013, pour que une de mes tantes, qui est responsable d'une salle à Saint-Fray, sollicite mon service comme aumônier de sa salle le 15 août suivant. On était le 7 juillet, j'avais un mois pour me retourner. Enfin, il y a eu un peu moins. Et donc j'ai accepté. Et je suis venu sans trop savoir ce que j'allais faire, parce que je me sentais pas très à l'aise avec le milieu hospitalier, donc avec les malades, le contact avec ces personnes. Je savais pas trop comment me positionner.
Vous aviez peur de la souffrance ou de...
Oui, je sais pas.
Du rapport à la fragilité.
Oui, puis voilà, j'ai jamais été très très à l'aise en milieu hospitalier. C'est des lieux que j'aime pas fréquenter. Et donc je me disais, mais comment vais-je faire? Et puis j'étais touché par la grâce. Et aujourd'hui, c'est presque une nécessité. Lourdes fait partie de mon année. C'est de même que dans une année, vous avez Noël et Pâques. Chez moi, il y a Noël, Pâques et il y a Lourdes. Alors après, tout ne dépend pas de moi. Donc j'espère juste dans le futur arriver à me libérer au mois d'août pour être là. Parce que on parle souvent des malades, mais en fait, on est tous pèlerins quand on vient à Lourdes. Et même quand on se croit valide et en bonne santé, on vient recevoir beaucoup, souvent d'ailleurs même des malades eux-mêmes, qui par leur témoignage de joie dans la souffrance, d'espérance dans des situations qui sont très complexes, sont une vraie leçon qui nous est donnée, d'humilité au départ, de foi, d'espérance, de charité aussi. Et donc pour un prêtre, en tout cas pour moi, c'est sont 5 jours de grâce au service des malades, des hospitaliers, tout ce qui est vécu, la démarche des piscines, les prières en salle, la veillée adoration confession qui est absolument magnifique. Enfin voilà, le prêtre peut déployer tous les dons qu'il a reçus au jour de son ordination pendant ces 5 jours. Alors heureusement les prêtres on les déploie tous les jours de notre vie, j'espère, mais là il y avait au moins 5 jours vraiment très denses où du matin au soir nous sommes totalement donnés au service des autres.
Et les prêtres sont chez eux à Lourdes parce que la Vierge leur a dit à Bernadette, allez dire aux prêtres.
Oui, oui, oui.
Elle les a désignés, les prêtres, comme les missionnaires, les disciples missionnaires.
Bien sûr.
Du message de Lourdes.
Oui.
Vous le recevez comme tel ?
Oui, mais en fait, je pense qu'un sanctuaire sans prêtres ne peut pas exister en plus. Donc
oui.
Le message de Bernadette avait besoin d'être répercuté. J'ai lu cette année, ça change aussi ma manière de vivre Lourdes, mais la vie du père Antoine Marie, qui est appelé le saint de Toulouse, mais qui n'est pas encore béatifié, qui est un capucin, qui a connu Sainte Bernadette, et c'est à lui que l'on doit la procession au flambeau, que l'on doit beaucoup de choses qui sont développées à Lourdes. Et j'étais très touché par cette vie de cet homme capucin qui vivait du coup dans une grande simplicité, mais qui était habité par un feu incroyable, un prédicateur qui a prêché dans toute notre région, même plus largement la France, et que je trouve encore trop méconnu d'ailleurs, parce qu'il a une parole incroyable.
Vous avez vu la comédie musicale Bernadette de Lourdes, on va parler de la petite Bernadette, mais au sein de cette comédie musicale, il y a l'abbé Peyramal.
Oui.
Quel personnage, ce prêtre, qui au début est un peu sceptique, ne veut pas trop croire ce que Bernadette lui raconte, et puis à un moment, il est complètement retourné.
Oui.
Et il devient un défenseur du message de Lourdes et de la petite Bernadette.
Oui, mais je pense que on aurait peut-être tous agi de la même façon.
Oui.
En plus, dans un contexte qui n'était pas favorable, mais si moi, un matin, j'ai une personne de mon service qui arrive et qui me dit « j'ai vu la Sainte Vierge cette nuit »,
vous voulez ça, des preuves, donnez-moi
voilà,
des preuves.
Je ne garantis pas tout de suite d'être parfaitement à 100% d'accord ou...
Oui.
Voilà, je pense qu'il va y avoir une réserve de prime abord. Ensuite, il faut quand même... pas prendre ces choses à la légère, parce que le Seigneur continue à se manifester, et je crois que nous ne savons pas le voir, donc heureusement qu'il sait toucher des cœurs qui le voient et qui le portent aux autres.
Et sa messagère, c'est la petite Bernadette.
Exactement.
Qui, avec une sacrée ténacité, à temps, à contre-temps, malgré les autorités, les oppositions, dit, répète ce qu'elle reçoit à la grotte de Lourdes. À travers notamment cette comédie musicale, c'est une aubaine peut-être pour tout un chacun de redécouvrir ce personnage incroyable qu'est la petite Bernadette.
Complètement. Pour moi, c'était une redécouverte parce que j'ai lu La vie de Sainte Bernadette, sans doute en BD quand j'étais petit, et ça s'est vite arrêté là, je pense. Et du coup, hier soir, parce que j'ai vu ça hier soir, j'ai redécouvert la force de cette figure qui disparaît un peu, je trouve, quand on est à Lourdes, parce qu'évidemment, c'est la Sainte Vierge, c'est normal, hein, la belle dame de Lourdes, mais sa messagère est parfois un peu oubliée, finalement. Et donc là, découvrir, mais finalement, c'est sa vie, quand elle dit « je ne suis pas chargée de vous faire croire, mais de vous dire ». Donc c'est une voix qui finalement est entre deux émetteurs, la Sainte Vierge qui parle et nous qui la recevons. Et donc ce flux est invisible, et je pense que c'est aussi toute la grâce de Bernadette qui nous enseigne l'humilité, savoir être un serviteur effacé. Mais donc voilà, c'est vraiment ce qui ressortait hier. Puis il y a ce chant assez fort de « Pourquoi moi ?» cette parole qui, je pense, traverse souvent beaucoup de personnes qui sont appelées à des missions, à des grandes missions. « Pourquoi moi ?» Et qui se confronte au pourquoi elle de ses sœurs, et pourquoi il y en a une qui bénéficie de grâce, et pourquoi les autres ne savent pas voir finalement les grâces dont elle bénéficie elle aussi. Mais il y a toujours ce combat qui naît quand quelqu'un est choisi, lui rentre dans un combat pour pouvoir porter ce dont il est bénéficiaire, et les autres se retrouvent dans un autre combat qui est de la jalousie, on peut s'emparer d'eux, et donc il y a tout ce combat spirituel, et Bernadette devient la figure de l'humble servante qui, à la suite de la Vierge Marie, bien, porte au monde cette lumière, et je trouve que les paroles de cette comédie sont très très fortes, voilà, il y a un sens profond qui est transmis quand on a la chance de pouvoir assister à cette comédie musicale.
Merci beaucoup pour cet échange. Si vous permettez, Père Abbé Arnaud Duchéron, et merci à vous pour ce témoignage. On vous laisse à vos pèlerins, puisque vous êtes en pèlerinage à Lourdes.
Oui.
et on vous souhaite bon vent, parce que vous repartez bientôt de la France, voilà, direction Jakarta,
oui,
en Indonésie. Bon vent à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, Mathias.